Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Pascal. Bonjour.
Bonjour. Yves.
Sébastien.
Bonjour.
Jean.
Bonjour.
Et Christophe.
Bonjour.
Tous quatre, vous êtes ici pour nous parler des 77 ans de la NACBA. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et puis aussi du collectif qui s'est constitué depuis quelque temps sur 10 pour protester contre ce qui se produit actuellement sur Gaza. Christophe, ce collectif, de quelle envie est-il apparu ?
Alors tout d'abord, je voudrais commencer par deux petits points d'introduction. Aujourd'hui, on est entre hommes, mais c'est important de rappeler que dans notre collectif, donc Diwa Palestine Solidarité, il y a également beaucoup de femmes. Aujourd'hui, par un concours de circonstances et au vu des disponibilités de chacune, chacun, on est 4 hommes. La deuxième chose que je voulais rappeler, c'est que on se réunit en effet tous les jeudis à 18h devant le lycée, devant la cité scolaire, et donc depuis le 11 décembre, donc ça fait quelque temps. Depuis ce jour-là, on est attaqué sur les réseaux sociaux, traité d'extrémistes et d'antisémites. Et pour nous, c'était important de rappeler ce matin que notre collectif est antiraciste, non-violent et anticolonialiste, que les choses soient bien claires. Donc ces insultes et ces attaques n'ont aucun sens pour nous. On dénonce également les atrocités du 7 octobre commises par le Hamas, donc que les choses soient bien claires. Notre collectif, il se réunit donc tous les jeudis à 18h devant le lycée. Pour quelle raison ? Pour dire stop tout simplement au génocide en cours à Gaza, pour dire stop à la colonisation effrénée et à l'épuration ethnique qui a lieu en Cisjordanie occupée, mais également pour déplorer et dénoncer l'inaction de notre gouvernement, pour dénoncer son soutien inconditionnel à l'État génocidaire d'Israël et à l'État qui pratique l'apartheid. Alors, évidemment, on n'attaque pas les Israéliens. Pour nous, ce n'est pas une guerre religieuse, mais une guerre de colonialisme. C'est important pour nous de le répéter. Aujourd'hui, on est là pour préparer le jeudi qui vient, et donc les 77 ans de la NACBA.
Justement, la NACBA, qu'est-ce que c'est ?
La NACBA, au sens propre, c'est la catastrophe. C'est le mot arabe qui signifie catastrophe. C'est la catastrophe qui accompagne pour les Palestiniens la création de l'État d'Israël en 1948. Donc elle est commémorée avec la date de création, de proclamation de l'État d'Israël par les dirigeants sionistes le 15 mai 1948.
Cette catastrophe, pour situer un peu le contexte, que s'est-il produit à ce moment-là pour le peuple palestinien ?
À ce moment-là, suite à au vote à l'Assemblée de l'ONU d'un plan de partage qui est adopté le 29 novembre 1947, des tensions, des violences se sont multipliées en Palestine mandataire, dans la Palestine britannique. Elle était sous contrôle britannique depuis 1918. Or, les Britanniques ont annoncé leur volonté de quitter la Palestine à la date du 15 mai 1948. Les Palestiniens arabes refusaient de se voir dépossédés et de voir créer un État juif séparé en Palestine. Ils défendaient l'idée d'un État de Palestine qui serait ouvert à toutes les populations, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes. Or, le plan de partage est un plan de partage qui, en fait, crée un État juif en Palestine, alors que les populations sont totalement imbriquées. C'est-à-dire que, du coup, la proclamation de l'État d'Israël va s'accompagner, en fait, de violences qui visent à homogénéiser le territoire pour la création de cet État d'Israël voulu par le mouvement sioniste, c'est-à-dire dont il cherche à expulser le plus possible de la population arabe.
Voilà. L'ONU, qui était justement à l'initiale de cette création d'Israël, quelle a été son implication justement dans cette période de la Nakba ou de ce bouleversement de territoire ?
Pour aller vite, l'implication de l'ONU, c'est d'abord un accord entre les États-Unis et l'URSS. C'est-à-dire aussi bien M. Truman que Staline sont d'accord, sont favorables, pour des raisons différentes, hein, mais bon, on ne rentre pas là-dedans, sont favorables à la création d'un État d'Israël. Et donc, d'où le fait qu'ils exercent suffisamment de pression pour qu'il y ait une majorité des deux tiers à l'ONU pour voter la création de cet État. Les conséquences, ça va être que, en réalité, il y a un embargo sur les armes, mais qui est complètement défavorable aux Palestiniens, puisque depuis la grande révolte palestinienne de 1937-1939, les Britanniques avaient collaboré étroitement avec les forces de défense juives, sionistes, et que les Palestiniens sont très peu armés. La possession simplement d'une arme chez soi, avant, dans les années 30, hein, entraînait pour un Palestinien la condamnation à mort. Alors qu'inversement, des officiers de l'armée britannique avaient organisé des forces communes avec les organisations armées sionistes.
Jean, oui, quelle était cette révolte de 1937-38 ?
37, 38, 39, en fait. Oui. Hein. C'est une révolte parce que à ce moment-là, il y a un plan britannique, justement, déjà, qui évoque un possible partage. Depuis la déclaration Balfour de novembre 1917, l'Empire britannique, le colonisateur britannique, qui a la main sur la Palestine, a donné son aval à la création d'un foyer national juif qui reconnaît des droits nationaux aux Juifs en Palestine, sans évoquer ceux du tout de la plus grande partie de la population, puisque en 1918, il y a une population arabe palestinienne, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, de 600 000 individus pour 56 000 Juifs en Palestine. Et pourtant, du coup, il va y avoir une colonisation de peuplement qui va se faire du temps de la domination britannique, et en 1945, pour 1 200 000 Arabes, il y a déjà 550 000 Juifs qui sont pour la quasi-totalité d'origine européenne. C'est-à-dire que c'est une colonisation de peuplement européen en Palestine. Alors, ce qui justifie, du point de vue des Juifs qui immigrent en Palestine, c'est bien évidemment les persécutions dont ils sont victimes en Europe, que ce soit en Pologne, que ce soit en Allemagne avec le nazisme, mais aussi dans la Pologne, hein, que les nazis envahissent, il y avait une persécution des Juifs, comme chacun le sait, et qui va se révéler mortelle pour des millions de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
Pascal Wick, vous-même êtes allé dans les années 60 travailler hein, dans les kibboutz, je crois.
D'accord. Ouais, c'est vrai.
Et quelle était votre impression justement sur cette manière de vivre à l'époque entre Palestiniens et Israéliens ?
Entre Palestiniens et Israéliens, il n'y avait pas de lien entre Palestiniens et Israéliens.
Non, je parle de...
Dans le kibboutz, c'était que des Israéliens, oui. Juifs. Ouais.
Mais vous n'étiez pas uniquement que dans les kibboutz.
Non.
Oui.
C'était pendant la guerre. C'était, moi, je suis allé en Israël plutôt à l'époque, ouais, en 1960, et j'y suis allé parce que j'avais cette idée du kibboutz, un homme nouveau, etc. Et en fait, je suis parti d'Israël deux mois après en me disant, je n'en remettrai plus jamais les pieds là-bas parce que j'étais anticolonialiste à l'époque, et pour moi, c'était un pays colonialiste. Et J'ai souvent rencontré des Israéliens qui m'ont dit « Mais il faut te mettre, quand tu feras ton service militaire, viens avec nous, etc. » C'était après la guerre de 1956, où la France était alliée avec Israël. Et moi, j'étais complètement contre etc. Donc, mon idée, c'était de plus jamais retourner là-bas. Voilà.
Sébastien, vous-même, quelle est votre implication dans cette organisation donc, autour de ce mouvement de dit?
Eh bien, moi, en fait, j'ai rejoint le collectif après quelques semaines de réunion. Mais je fais partie d'un groupe d'amis qui fait des actions en faveur de la Palestine depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc, peut-être des gens ont remarqué la table de presse sur le marché. Il y a eu un concert en soutien aux prisonniers palestiniens et il y a eu d'autres actions.
Vous êtes donc dans l'organisation plus ou moins festive, hein, de manière à peut-être faire connaître cette problématique et peut-être de recueillir quelques fonds.
Oui, alors il y a eu ça, le concert, mais il y a plein d'actions en fait, de faire connaître la culture palestinienne, l'histoire palestinienne, mener des actions militantes plus classiques, les concerts aussi. Le soir du concert, il y avait de l'artisanat palestinien, il y avait une table de presse, des livres, enfin voilà, pour tous les types d'intérêts qu'on peut avoir pour la Palestine.
Pour ces 77 ans de la Nakba, Christophe, qu'est-ce qui est en prévision dans le DIY? Est-ce que vous organisez des rencontres ou des rendez-vous?
Oui, donc on va se réunir devant la cité scolaire à 17h30, donc ce jeudi 15 mai. L'idée étant de réunir un maximum de personnes et de marcher, donc d'être en mouvement, jusqu'à la sous-préfecture. Donc avec des messages à faire passer, des banderoles, des pancartes, voilà, chacun viendra avec ce qu'il a préparé. Et l'idée, c'est vraiment d'appeler toutes les personnes en fait qui se sentent impuissantes et complètement démunies face à cette barbarie en cours, de venir nous rejoindre, en fait, parce que ça fait du bien de se réunir entre humains, de voir qu'en fait, il y a plein d'humanité autour de nous. On est conscient qu'il y a plein d'autres luttes dans ce monde, mais voilà, face au génocide en cours et le premier génocide qui est quand même retransmis avec tous les moyens de communication que l'on a, l'idée c'est de dire qu'en fait, on sait ce qui se passe et on n'a pas envie dans des années de se dire qu'on n'a rien fait. Donc rejoignez-nous. Venez discuter, venez partager des moments et vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Effectivement, il y a deux ou trois semaines, il y avait cette réunion devant la sous-préfecture, suite à ce défilé, avec l'énumération de toutes les victimes qui étaient mentionnées donc, sur cette réunion. Comment se passent justement ces prises de connaissance de la situation en Palestine? Est-ce que vous avez des structures qui permettent de vous tenir au courant et au fait assez rapidement via les moyens numériques d'aujourd'hui?
Oui, moi, entre autres, comme je vais régulièrement là-bas,
oui.
La dernière fois où j'y suis allé, c'est en février-mars de l'année dernière. Donc. Et donc, j'échange à travers Internet, avec des Palestiniens qui sont en Palestine occupée. Moi, je ne suis pas allé à Gaza, je n'ai pas de lien avec Gaza, mais j'ai quotidiennement des échanges avec des Palestiniens en Palestine occupée. Ouais.
Et il y a cette notion aussi, il y a ce contact avec les Palestiniens, mais est-ce qu'il en existe aussi parmi les Israéliens qui sont dans l'opposition du gouvernement et avec qui vous avez des échanges?
Ben, c'est-à-dire il y a justement des Israéliens minoritaires, il faut le reconnaître, mais qui font preuve d'un courage considérable parce que c'est pas facile pour eux, ils sont dénoncés comme des traîtres alors qu'ils défendent les droits des Palestiniens. Et notamment, il y a des comme Betselem ou des associations qui nous démarchent et nous demandent leur soutien, hein, auquel on peut le donner sur la toile. de refuseniks, si on veut, hein, de soldats qui refusent de servir dans l'armée d'occupation et qui refusent d'obéir aux ordres qui sont contraires aux droits humains. Et donc, oui, il y a toute une opposition israélienne, mais il faut le reconnaître minoritaire, à son gouvernement génocidaire.
Une opposition plutôt muselée, donc.
Oui, il y a... Enfin, la répression et tout ce qui... la censure de toutes les voix dissidentes est très bien organisée en Israël. Par exemple, il y a une liberté de manifester, mais avec interdiction d'utiliser les mots génocide, nettoyage ethnique. Donc, il n'y a pas une liberté d'expression si forte. Israël, c'est aussi une société militariste. Tout le monde fait son service militaire, hommes et femmes. Tous les ans, chaque citoyen qui a l'air d'être un civil normal, il fait 40 jours minimum en tant que réserviste. Et donc là, en fait, les citoyens normaux d'Israël ont tous été combattre à Gaza ou en Cisjordanie depuis 2 ans. Et en fait, c'est une société militariste aussi dans le sens où, quand on postule à un emploi, la première question qu'on vous pose, c'est « Où est-ce que vous avez fait votre service militaire ?» Donc les refuseniks qui refusent d'aller combattre, ben, en fait, ils se préparent une vie très compliquée parce que ça va être compliqué pour eux de trouver du boulot.
Moi, j'ai des contacts réguliers avec des Israéliens juifs, donc, presque quotidiens, des personnes que j'admire beaucoup, avec qui, quand je vais là-bas, je vais avec eux, etc., et qui sont quotidiennement aussi en contact avec des Palestiniens en Cisjordanie et qui les aident. Pour vous citer quelque chose, il y a une jeune femme qui a eu une jeune femme palestinienne de Tul Karem qui a un cancer des os et qui n'arrive pas à se faire opérer. Et là, il y a eu un crowdfunding ici aussi à Adi. Et il y a un Israélien et une Israélienne juive qui ont dit que si jamais le crowdfunding n'arrivait pas à récolter les 20 000 pounds que ça demande, ils mettraient la différence. Et à l'heure actuelle, ils sont prêts à mettre 10 000 pounds. Et ça, c'est des Israéliens juifs qui vont faire ça. La deuxième chose que je voulais dire pour situer un peu les gens qui sont contre ce qui se passe à Gaza, il y a eu un récent sondage qui a été publié par Haaretz récemment, il y a 3 jours. 97% des Israéliens sont pour que le blocage de Gaza continue. Ça veut dire qu'il y a 3%. Donc si vous avez 33 personnes, 33 Israéliens, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 33 qui est contre ce qui se passe à Gaza. C'est pour situer à quel point ils sont, je veux dire, ils sont courageux, quoi, hein, ces gens qui sont... Voilà.
Ce sondage émane de quel service
Moi, je l'ai lu à travers Haaretz, qui est un journal quotidien bien connu et respecté. C'est un peu l'équivalent du Monde, quoi. Non, voilà.
Il y a cet avenir plutôt inquiétant où le gouvernement affirme de vouloir détruire Gaza entièrement. Alors, concrètement, est-ce que vous pressentez quelle situation cela va amener?
Ben, là, pour le moment, c'est la poursuite du massacre. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, si vous prenez les nouvelles, justement, aux réunions du comité, il y a un fil info, hein, qui est fait tous les jeudis. Et qu'est-ce qu'on peut égrener? 60 morts, 58 morts, 12 morts. Je crois qu'on annonçait hier, c'était une journée basse. Hein, 12 morts. Bon. Dont, évidemment, comme d'habitude, des enfants, puisqu'on bombarde une école en prétextant que le Hamas se dissimule dans les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, le massacre continue. Et ce qu'on peut voir comme danger majeur, là, tout de suite, c'est le fait de reprendre une alimentation qui a été coupée, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont plus de vivres, ils n'ont plus de médicaments. Et l'État israélien, en accord avec l'administration Trump, veut, en ayant exclut l'ONU, l'UNRWA qui est présentée comme complice du Hamas, l'ONU elle-même d'ailleurs complice du Hamas, veut contrôler la distribution de cette aide. C'est-à-dire on reprend une aide alimentaire, médicamenteuse, etc., mais sous le contrôle de l'occupant israélien ou de sociétés privées nord-américaines, comme ce qui s'était fait en Irak, avec les conséquences catastrophiques qu'on connaît.
Christophe, par rapport à cette situation actuellement, quel est le sentiment qu'éprouvent les Palestiniens par rapport à l'action du Hamas ?
Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que Jean vient de dire, parce que donc je suis parti en tant que logisticien humanitaire pour une ONG française bien connue qui s'appelle Handicap International. Je suis parti à Gaza en fin d'année dernière. Déjà à l'époque, l'aide humanitaire était bloquée. En tant que logisticien, j'étais responsable de faire entrer ces camions. J'en ai pas vu un seul en 3 mois. Puis il y a eu la trêve, et puis là, depuis le 2 mars, donc il n'y a plus aucune aide qui rentre à Gaza. Donc moi, je suis en lien quotidien avec mes collègues gazaouis qui sont sur place. Tous me disaient, quand j'y étais, qu'ils ne quitteraient jamais leur terre, en fait. Que c'était chez eux et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient tomber qui voulait du ciel, en fait, ils ne partiraient pas. Et puis là, j'ai eu un appel, un message de détresse de mon frère, en fait, avec qui j'ai passé 24 heures sur 24 parce qu'on habitait et on travaillait ensemble. Il a 3 enfants, dont un petit de 3 ans. Et là, il m'a dit, Chris, est-ce que tu peux me faire sortir de Gaza ? Donc, en fait, ils en sont là. C'est-à-dire que c'est pire qu'avant et on a du mal à imaginer que déjà en fin d'année dernière, c'était l'horreur. Mais aujourd'hui, pour eux, c'est encore pire. Donc, en fait, c'est de pire en pire. Le sac de farine, encore une fois, il a $400 sur le marché. Personne ne peut se procurer de la farine. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'eau, comme disait Jean. Moi, quand j'y étais, la seule station de potabilisation venait d'être touchée par des drones. Voilà, donc ils utilisent la faim comme arme de guerre. Et c'est ça qu'on veut dénoncer, quoi.
Donc, je reviens sur ma question. Quel est le sentiment des Palestiniens vis-à-vis du Hamas ?
Alors, en fait, je vais parler pour ceux que je connais. Hein, et quand j'étais, on a eu des longues discussions parce qu'en fait, ils sont très ouverts. Ils étaient hyper friands de discuter avec nous. En fait, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent tout simplement plus de la politique, que ce soit les Européens, les Américains, le Hamas. En fait, ils sont dans une situation où ils sont pris en tenaille, en fait, par tous ces partis en fait qui cherchent à leur imposer une situation qui en fait ne leur convient pas. Eux, ce qu'ils dénoncent, les actions dites de l'Occident, mais ils dénoncent également les partis sur place. Alors il y a le Hamas, mais il y a aussi une dizaine d'autres groupes en fait qui contrôlent la bande de Gaza. Aujourd'hui, le Hamas est bien évidemment très affaibli, est ciblé par Israël et les Occidentaux, mais à côté de ça, il y a des grandes familles qui contrôlent le territoire, qui détournent l'aide humanitaire quand elle rentre et qui, eux, sont protégés par Israël. Voilà, donc en fait, les Palestiniens, les Gazaouis que moi j'ai pu rencontrer, ils n'ont plus aucune pitié dans leurs mots pour que ce soit le Hamas, les grandes familles, les Occidentaux. Voilà, ils veulent juste vivre en paix, quoi, tout simplement.
Déjà dans les années 80, une amie qui était dans son cursus universitaire présente en Palestine recueillait les propos des habitants et disait que pour mieux agir pour la Palestine, c'était d'opérer dans son pays respectif, hein, donc depuis l'Angleterre par exemple. C'est toujours le cas aujourd'hui. Est-ce que les actions sont peut-être plus efficaces en étant dans chaque pays ?
Ben, il semblerait en tout cas qu'il y ait un mouvement qui s'amorce de prise de sanctions par les gouvernements européens à l'égard de l'État d'Israël pour mettre fin à ces crimes de guerre et à ces actes génocidaires. Et c'est un changement notable et dans lequel notre gouvernement est plus qu'à la traîne. C'est-à-dire qu'ils se contentent de condamnations verbales, alors qu'en pratique, il est possible, au nom d'eux-mêmes de son article 2, contester l'accord de coopération économique et culturelle de l'Union européenne avec l'État d'Israël. Donc, cet accord de coopération prévoit lui-même des clauses de remise en cause s'ils ne sont pas respectés les droits humains. Or, c'est le cas. Et notre gouvernement, en réalité, reste inactif. Alors, d'autres, plus ou moins timidement, alors avec une certaine franchise comme les Espagnols, les Irlandais, j'en oublie, et puis plus récemment les Néerlandais, voire même les Belges, s'avancent en disant « oui, il faut prendre des sanctions, c'est impossible ». Tandis que pour l'instant, la position officielle de l'Union européenne, c'est insoutenable, ou comme dit notre président, c'est un crime, mais on ne fait rien. Mais on ne fait rien, sinon des condamnations verbales. Donc ce que nous réclamons, toute notre action vise à ça, à faire bouger notre gouvernement, puisque c'est la question que tu posais, oui, c'est vraiment ça, c'est nous, en France, ce qu'on peut faire, on ne peut pas substituer aux Palestiniens. On n'a pas, nous, à trancher des formes de résistance qu'ils choisissent et des organisations qui l'amènent. Ce n'est pas à nous d'en décider. Et de ce point de vue-là, c'est important de dire, agissons sur notre gouvernement, c'est possible de peser. On est convaincu que c'est possible de peser. Parce que lui, ce gouvernement, en France, je pense que d'autres de mes camarades vont intervenir là-dessus, cherche à quand même nous faire taire. C'est-à-dire, je rappelle que le collectif Urgence Palestine, la principale collectif de soutien au peuple palestinien en France, est menacé d'interdiction, là. Alors que la présidente d'Amnesty International est intervenue pour dire que c'était vraiment complètement attentatoire aux libertés publiques.
Ce sentiment, je me tourne vers Sébastien, ce sentiment de vouloir faire taire un peu la population hein, sur ce problème, et comment se décline-t-il au quotidien? Est-ce que vous avez des problèmes relationnels parfois? Vous citiez tout à l'heure les sites de réseaux sociaux qui vous condamnent ou qui vous jugent.
Ouais, je crois que de toute façon, si on s'engage pour une cause, on a toujours une opposition. Et en fait, la Palestine, elle est au croisement de plein de causes. C'est à la fois du colonialisme, c'est du racisme anti-arabe, c'est de l'islamophobie. Donc oui, en fait, il y a forcément plein d'outils, l'antiterrorisme, l'apologie du terrorisme pour faire taire les gens. Moi, dans le quotidien, je ne l'ai pas spécialement ressenti à dire, mais en France, oui, il y a énormément de mesures qui sont prises pour faire taire les gens. Il y a plein de conférences qui ont été interdites. Les actions non violentes de boycott d'Israël sont en voie d'interdiction ou interdites selon les pays. Alors que bon, c'est une des actions les plus efficaces. Par exemple, juste à côté de Die, il y a Valence qui est jumelée avec une ville en Israël. Donc, en fait, c'est très simple. Hein. Vous pouvez appeler la mairie de Valence. Si tout le monde appelle la mairie de Valence, à un moment, ils vont suspendre le jumelage. Et les Israéliens vont être au courant. Et ça influe. C'est plein de petites actions. On peut tous faire plein de petites actions. Il y a, selon ses spécialités, il y a aussi il y a une fillette qui a été tuée dans une voiture à la mitrailleuse par les soldats israéliens il y a un an, qui s'appelle Inra Jab. En sa mémoire, il y a une fondation de juristes qui s'est créée, qui traque les soldats israéliens, qui ont publié des propos et qui ont filmé leurs actes de génocide. Bon, il y a plus de 1000 Israéliens qui sont poursuivis par cette fondation dans le monde entier. Dès qu'ils sortent d'Israël, elle dépose une plainte dans le pays où ils se rendent pour qu'ils soient obligés de fuir ou qu'ils soient enfermés. Et il y a plein d'actions. Il y a plein d'actions possibles.
Quels sont pour vous les moyens d'être mis au courant de la situation au quotidien? Certainement des contacts d'amitié, mais aussi au niveau des médias. Est-ce qu'il y a des médias qui sont sûrs à vos yeux pour vous informer?
Oui, y a quand même des médias oui, qui informent. Pour ce qui est des journaux français, enfin, mes camarades donneront leur avis, mais c'est évident que Mediapart fait un effort d'information régulier, avec des informations intéressantes à un degré qu'aucun autre journal ne fait. Il y a des moyens d'information spécifiques comme Orient 21, Et puis des sites comme, je ne sais pas comment ça se prononce, ça se dit, mais plus 972, ce sont ça des moyens d'information vraiment utiles, très bien faits. Orient 21, c'est plutôt, tu me corriges, vous me corrigez si nécessaire, des articles de fond, ce n'est pas toujours branché directement sur l'actualité. Plus 972, c'est une alimentation très très régulière, alors là, d'informations quotidiennes. Donc on peut encourager tout le monde à recourir à ces sites. Hein. Il y en a sûrement d'autres que moi je ne connais pas ou que je ne fréquente pas. Mais...
Alors sur Orient 21, donc c'est vraiment des articles de fond. Mais il y a aussi le journal de Gaza. Donc c'est Rami Aboujamous qui est un journaliste qui habite à Gaza, qui vit à Gaza. Et qui donne un peu sous forme de blog et des informations aussi qui sont fouillées. C'est à la fois très sensible, très informatif, et il a reçu 3 prix, prix Bayeux du reporter, ce qui n'était jamais arrivé, pour saluer la qualité de son travail. Donc si vous voulez y aller, toutes les semaines, il offre une chronique, et c'est vraiment de très bon niveau.
Puis je voudrais juste rajouter que, vu qu'on parle de médias et de journalistes, à Gaza, 10% des journalistes ont été assassinés par l'État d'Israël. Ils sont ciblés parce que journalistes. Et il n'y a aucun média et aucun journaliste internationaux qui sont autorisés à rentrer dans la bande de Gaza. Donc en fait, les informations qui viennent de Gaza ne proviennent, pour l'instant, uniquement que... donc de journalistes qui sont encore sur place, et il y en a de moins en moins, c'est important de le rappeler. Rami Aboujamous, qui est un journaliste qui est encore sur place, commence toujours, parce que je l'ai rencontré là-bas, il commence toujours par me dire « toujours vivant ». Jusqu'à quand, on n'en sait rien, mais vu qu'il est journaliste et qu'il écrit des chroniques sur un média francophone, il sait pertinemment qu'il pourrait être ciblé. Donc voilà.
Existe-t-il une population palestinienne présente, ne serait-ce que dans la Drôme, et avec qui vous échangez, ou qui vous permette peut-être d'avoir des réflexions sur cette situation, ou voir quel soutien peut-être élaborer ?
Pas à ma connaissance. Hein,
non ?
Oui, il y en a. Moi, je ne les connais pas personnellement, mais il y en a. Après, malheureusement... C'est une population qui risque d'augmenter, puisque en fait, Israël, pas tout à fait dans le plus grand silence, mais personne n'en parle en Occident. Par contre, dans les journaux israéliens, c'est dit très clairement, Israël est en train de déporter les Gazaouis. Et il y a 3 semaines, il y a un avion de 140 ou 170 passagers qui est arrivé à Paris. On n'en fait pas de publicité, mais petit à petit, les Gazaouis sont dispersés dans le monde entier.
Il y a une problématique quand même, c'est ce gouvernement hein, dirigé par Netanyahou qui a beaucoup d'arriérés en justice. Est-ce que c'est aussi pour lui la possibilité, par la fuite en avant, d'amener ce peuple d'Israël hein, dans cet abîme ?
Oui, bien sûr. Hein. Beaucoup de, toute une opposition israélienne qui même... n'a pas une attention très marquée pour le sort des Palestiniens, est en revanche vent debout contre Netanyahou, puisqu'il est poursuivi en justice pour corruption, et que la poursuite de la guerre, c'est la manière aussi pour lui d'échapper à une possible condamnation. Donc, il est lui-même contesté, c'est-à-dire il y a des manifestations, ils ont rendu, encore samedi dernier, à Tel Aviv, une manifestation très importante des milliers d'Israéliens qui ne protestaient pas contre le massacre des Palestiniens, mais contre le fait que Netanyahou est prêt, apparemment, visiblement, à sacrifier les otages, puisque une partie des otages, ils ont probablement été tués par les bombes israéliennes, par les tirs israéliens, et pour échapper à ses poursuites, à la perte du pouvoir. C'est-à-dire, c'est vrai, ça joue un rôle apparemment important.
Je reviens un peu sur cette idée. Il y a donc cette fuite en avant opérée. Mais quel est le sentiment des Israéliens par rapport à ces agissements du gouvernement dans ce conflit? Est-ce qu'il y a quand même une opposition? Vous disiez qu'elle est minime aussi en Israël.
Ce que précisait Pascal tout à l'heure, c'était que une petite minorité d'Israéliens défend en fait l'idée d'un État binational ou de l'égalité entre Palestiniens arabes et Israéliens juifs et envisage des formes à définir, à débattre, de vie commune. Ceux-là sont très minoritaires et sont dénoncés comme des traîtres, comme abandon de projet, etc. Mais la grande, une importante fraction de la population qui ne condamne pas la guerre contre les Palestiniens, en revanche, condamne la politique suivie par Netanyahou qui fait fi des otages au profit de son propre sort, quoi.
Et puis il y a aussi un phénomène qui n'est pas relaté dans les médias, c'est le fait que beaucoup d'Israéliens modérés quittent Israël. Donc là, le risque qui se pose, c'est que Israël se retrouve qu'avec des extrémistes, entre guillemets. Mais on n'a pas les chiffres, c'est très difficile à savoir, mais ces départs en fait, d'Israéliens vers l'Europe, vers les États-Unis, etc., est une réalité.
Pour les chiffres, en 2024, Israël, pour la première fois depuis 80 ans, a perdu de la population par l'émigration et c'était 60 000. Il y a eu 60 000 départs de plus que d'arrivées. Et c'est la première fois depuis 80 ans.
Il y a aussi cet aspect de, comment on appelle ça, la diaspora israélienne ou juive. Quel est son sentiment sur cette problématique? Est-ce qu'il y a un soutien vers ce gouvernement ou alors est-ce qu'il y a aussi une réaction contre sa politique?
Ce qu'on peut dire en général, je trouve, c'est que l'opinion mondiale a évolué d'une façon énorme depuis le 7 octobre. Et qu'en ce sens-là, les Palestiniens ont gagné la bataille informationnelle. Et vis-à-vis des juifs des différentes nationalités internationales en dehors d'Israël, il y a un mouvement très important de juifs qui sont contre Israël. Peut-être moins en France que dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, etc. Mais il y a à l'heure actuelle peut-être même une majorité de juifs qui sont contre Israël dans beaucoup de pays, quoi. Et ça, c'est un grand changement qui s'est opéré depuis le 7 octobre 2023.
Justement, je reviens sur cette liberté d'information parmi les Israéliens ou la diaspora israélienne. Quelles sont leurs sources d'informations fiables pour être au courant de ce qui s'y passe?
Les mêmes que les nôtres, hein.
Oui, non. Pas.
Ou alors les liens familiaux.
Je veux dire, évoqué, s'il existait une presse un petit peu en marge et qui travaille avec un travail sérieux de reporter.
Il y a des organisations israéliennes, comme je citais Betzalem, mais il y en a d'autres, mais je crois que c'est la plus importante, qui, de l'intérieur même d'Israël, utilisent tous les liens qu'ils peuvent avoir pour diffuser une information critique vis-à-vis de leur gouvernement et de ses actes criminels.
Christophe, quel est votre sentiment, et à vous tous, sur cette situation? Est-ce que vous pensez qu'elle risque de perdurer pour un moment encore?
Malheureusement, oui. Je pense que tant que les Américains, parce que c'est quand même eux les plus grands soutiens d'Israël, mais également nos gouvernements soutiendront cet état génocidaire d'Israël, malheureusement, cette situation risque de durer. Et c'est pour ça que je pense, à mon avis, que plus il y aura une pression citoyenne et plus on attaquera nos gouvernements, potentiellement en justice, pour participation ou complicité à un génocide et à des crimes de guerre, plus on pourra avoir un changement. Mais malheureusement, j'ai peu d'espoir là dans un délai court et à moyen terme, que les choses ne changent vraiment.
pour les prochains temps sur le Diwa? Est-ce que vous préparez une rencontre importante au-delà de ces rendez-vous hebdomadaires?
Ben, on avait voulu organiser, on avait eu l'idée d'organiser justement à l'occasion du 15 mai, donc de ce qui représente une balise dans l'histoire, hein, une réunion consacrée justement à une information, une mise en perspective avec des personnes particulièrement qualifiées par leurs recherches. On avait pensé notamment à Alain Grèche, directeur d'Orient 21. Précédent directeur d'Orient 21, ça n'a pas pu se faire parce que, bon, ça reste sûrement, enfin, de mon point de vue, on n'en a pas reparlé, mais une question tout à fait importante, parce que c'est important de s'en tenir aussi au fait et de diffuser la connaissance et de ne pas rester dans le registre simplement de l'émotion.
Malgré l'absence de femmes sur ce plateau, quel est leur sentiment par rapport justement aux conditions de vie, hein, des Palestiniennes, précisément?
Il faudra refaire une émission et leur demander, parce qu'on ne voit pas.
Oui, mais vous n'avez pas d'échange quand même sur ce sujet entre vous.
Non, mais je vous réponds juste, oui. Personnellement, il faut pas. On défend les droits humains du peuple palestinien.
Oui.
Ça ne signifie pas qu'on idéalise ni les mouvements de résistance, ils sont ce qu'ils sont, ni la société palestinienne. Il y a des très bons romans et livres de témoignages qui montrent certaines réalités du patriarcat, de l'intolérance et tout, qui peuvent très bien choquer. Bon, c'est pas la question, si vous voulez. Donc, je pense que ça serait intéressant, effectivement, d'en parler spécifiquement avec des femmes. Mais moi, je peux pas, je pense les autres, parler au nom des femmes. Je ne suis pas une femme, je ne parlerai pas en leur nom.
Pour connaître un peu vos rendez-vous ou vos actions, le rendez-vous possible, c'est tous les jeudis, donc devant la cité scolaire, à partir de 17h30, je crois.
18h.
18h.
Ouais. Sauf...
Allez-y.
Non. Sauf ce jeudi qui vient à 15, ou c'est à 17h30.
Oui, ouais, voilà, sauf ce jeudi-là.
Je crois qu'on pourra se retrouver pour une autre prochaine émission. Et celle-ci se termine. Et donc, je vous remercie, Pascal, Sébastien, Jean et Christophe, d'être venus sur le plateau pour nous parler de cette situation en Palestine, et notamment des 77 ans de la Nakba. Et je vous souhaite une bonne journée. Hormis ces rendez-vous, il n'y a pas de lien mail ou téléphonique, hein, pour vous joindre?
Alors, on a quand même une adresse Rise Up avec le collectif. Voilà, on a, après le 1er mai, qui a été une journée quand même assez importante pour le collectif, on a eu une table et qui a attiré quand même pas mal de monde. On a récupéré des adresses mail en plus. Donc, voilà, pour ceux qui veulent rejoindre le collectif, oui. Et donc participer aux actions et aux mobilisations qu'on va entreprendre, rendez-vous ce jeudi à 17h30 devant le lycée, et je récupérerai les adresses mail que je n'ai pas encore pour les intégrer dans la mailing list.
Si je peux, oui, me permettre de préciser aussi une chose, d'ajouter, c'est que le collectif a pris l'initiative d'une carte postale adressée au président de la République, justement pour lui demander de prendre les sanctions qui paraissent nécessaires pour contrecarrer les crimes commis. Et cette carte s'est vraiment très très bien diffusée. Elle semblait vraiment donc répondre à une demande. Et un nouveau tirage est en cours et sera à la disposition de tous ceux qui souhaite la diffuser.
Donc, pour finir cette émission, nous allons écouter un peu de musique, hein, de ce pays de Palestine. Est-ce que vous pouvez nous citer justement, ou nous parler un peu de ce morceau que vous nous proposez?
Bah, c'est des morceaux. Il y a une estrade dans le village sur la... Hop, de nouveau. Il y a une estrade sur le village dans la place principale. Et puis il y a un orchestre qui vient d'un autre village ou de là, etc. Et puis, il y a une partie où c'est les hommes qui sont là, puis il y a une autre partie, plus tard, où c'est les femmes. Et puis, les gens dansent, etc. Quoi. Puis, c'est beaucoup un dialogue entre deux chanteurs, souvent. Voilà. c'est une tradition palestinienne. Enfin.
Eh bien, nous nous quittons sur cette musique et je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Merci.
Et au revoir.
Merci de nous avoir reçus.
Merci.
ولعت ولعت البداوي ولعتكم اي ولعت ولعت البداوي ولعت اعلى اي ولعت يا محبوب من الشمال للجنوب اي ولعت يا محبوب من الشمال للجنوب البس محمد الحبوب وكل احبابه تجمعات اي باسم العريس الحبوب وكل احبابه تجمعات اوعى لفراقك يا صدام وعيوني لك دمعات اوعى لفراقك تو عمار لك والعد يا شباب
احلى سيدة صالح
ودخل الله ثم داخلكم صار الحكم للنسوات
يا ويلي اي ايوب الاسرى يا ربي فراش قريب على كل معتك من يارا
ودخل الله ثم داخلكم لك ولعت يا شباب
الشباب الصف حبايبها
الوسط قبل العرس من الوسط من الصغير.